franceinter.com.
Bon Dieu l'a fait des sols sur la terre, bon Dieu l'a fait des sols.
Bienvenue dans l'heure ultramarine. Ce soir, départ en Haïti avec Mimi Barthélémy et Amos Coulanges. J'avais juste envie ce soir de vous dire à quel point j'étais heureux de vous voir tous deux, Mimi Barthélémy et Amos Coulanges, devant ces micros. Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis enchanté de vous avoir à mes côtés, car tout d'abord, avec vous deux, nous allons sortir de notre périmètre, pourtant large, de l'exploration des outre-mer français. Sortir, certes, mais pour rester outre-mer et en terre francophone, et pour rendre, en quelque sorte, hommage à la première République noire, Haïti, votre pays. Haïti, qui en 1804, après s'être soulevé, proclama son indépendance, au nez et à la barbe, d'un monde impitoyablement colonial et blanc. Une révolution, dans le sens premier du terme, qu'on lui fit payer très cher. À se demander aujourd'hui si votre pays meurtri, ravagé par le tremblement de terre de janvier 2010, ne paye pas encore le prix de sa liberté revendiquée par Toussaint Louverture, Dessalines, Pétion, Christophe, les quatre figures fondatrices de votre toute jeune république. On se le demande parfois, Mimi Barthélémy, non ?
Eh oui, on a raison de se le demander.
Le prix était lourd.
Le prix était cher à payer.
Le prix de la liberté. Je suis ravi ensuite, la guitare d'Amos Coulanges vient de s'éteindre, la guitare en guise de générique, parce que j'accueille ce soir deux artistes hors du commun. Vous, Mimi Barthélémy, la conteuse légendaire, magicienne de la parole de la nuit, celle que l'on aime voir, cette parole éclore à cette heure ultramarine. Vous qui vivez depuis de nombreuses années, doit-on le dire, depuis 50 ans à Paris, et qui êtes en quelque sorte l'ambassadrice culturelle de votre pays. Vous avez été promue en janvier dernier au grade, rien de moins, d'officier de l'ordre des arts et des lettres. Vous voyez, je m'embrouille presque. Et ça, c'était 10 ans après celui de chevalier de l'Ordre national du mérite. Et tout ça nous réconcilie un peu avec les honneurs dispensés par la République reconnaissante. Amen.
Vive la République
reconnaissante. Peut-être, Mimi, vous auriez... Enfin, j'insiste sur le fait que vous êtes une magicienne. Vous auriez préféré que j'assiste là-dessus, simplement. Une ensorceleuse, je dirais, de la parole créole. Un peu la dépositaire et la passeuse d'une culture orale dont la richesse est plus approuvée. Hein.
Je préfère la passeuse. J'aime beaucoup le terme.
L'ensorceleuse aussi.
Et vous le dites très bien.
Et puis vous, Amos Coulanges, le musicien prodigue et prodige aussi, le plus célébré des guitaristes haïtiens, maintes fois couronné par des prix comme celui de la SACEM en 86, c'était il y a longtemps. Vous êtes passionné par toutes les expressions musicales, vous composez des musiques de films, Amos, là je ne me trompe pas. Et puis vous réussissez, ça c'est ce que tout le monde sait, comme nul autre, cette forme de synthèse de la musique populaire et savante. Quelle fut, Amos, votre première inspiration, vous qui êtes né en 1954 à Port-au-Prince?
Première inspiration, c'est comme le parler de mon fond de culotte. J'ai oublié complètement. Mais je pense que tout m'est venu de mes parents, qui étaient d'abord protestants,
ouais,
et qui chantaient sérieusement à l'église dans des harmonies, on va dire plus ou moins bien écrites. Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, et puis un peu de gospel, en interdisant complètement, formellement, toute espèce de rythme de tambour sur les tables, en interdisant aux enfants de siffler aussi, parce que quand on siffle, on peut chanter des chansons cochonnes. Donc, ils nous interdisaient de siffler et de faire du tam-tam dans la maison. Malgré tout, en Haïti, on fréquente tout le monde à chaque seconde, à chaque minute. Donc, la substance naturelle de la musique haïtienne est rentrée en moi sans aucun effort. Donc, ma première inspiration, c'est deux choses. C'est les parents très sévères et puis la rue où ça grouille à toute vitesse avec un petit moteur dans leur hanche.
Et vous, Mimi, il faut plonger presque 20 ans avant pour vous voir naître. Je crois que c'est dans la région de Jacmel, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est vrai que Jacmel n'est pas ma ville d'origine. Je suis de Port-au-Prince, je suis une
Port-au-Princienne. Vous aussi.
Mais c'est vrai que Jacmel a eu une très grosse influence sur mon désir de compter, parce que nous avons une petite maison au-dessus de Jacmel, sur la route de Mapou. Et là, j'ai beaucoup entendu compter. Et j'ai aussi partagé énormément avec les paysans de là-bas.
Alors, si vous êtes là ensemble ce soir réunis, c'est qu'au-delà d'une complicité artistique qui date de plusieurs années, évidemment, il y a la création d'un spectacle qui vous a rapproché. Et c'est autour de ce dernier qu'on va tous ce soir évoluer. Qui d'entre vous deux nous fait ce qu'on appelle le pitch ?
C'est moi.
Ah, bon, ben, très bien, alors.
En vérité, il m'est arrivé de penser que le code noir était complètement oublié ou au moins occulté ici en France. Et je me suis dit, il est grand temps de rafraîchir les mémoires et de reparler de ce code. Et je me suis évidemment inspirée de ce code noir de l'esclavage aux abolitions avec l'introduction de Christiane Taubira.
C'est un petit livre qui est publié par Dalloz, vendu pour la modique somme de 2 euros qu'on devrait tous avoir sur soi. Non, je veux rire, Mimi. Mais néanmoins, un mot sur ce qu'était ce code noir qui, d'une certaine manière, réglementait, régimentait le sort des esclaves.
Le sort des esclaves
pendant le temps de la colonie depuis Louis XIV.
C'est un code de travail. Louis XIV et Colbert le rédigent. Il y aura encore d'autres codes noirs. Hein. Et donc, il y a là aussi bien l'importante reconnaissance de l'Église catholique sur ces îles d'Amérique et que le souci de ce que les colons, soi-disant, respectent un peu l'esclave, mais aussi la définition de ce qu'est l'esclave. L'esclave est un bien meuble.
Oui, quand vous dites que les colons respectent un peu, il y a effectivement un article dans ce premier code noir de 1685 qui dit que le colon doit se comporter, je crois, comme un bon père de famille.
C'est ça. Et c'est toujours un argument qu'on me donne ici.
Oui.
Lorsque je parle du code noir, ils me disent, mais c'est un code de défense de l'esclave. Et en fait, quand on approfondit, c'est quelque chose d'une barbarie sans nom. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais essayer de montrer dans ce spectacle, le paradoxe qui existe entre cette grande civilisation impérialiste et sa grande inhumanité. Donc, en parlant de Louis XIV particulièrement. Et ensuite, je voulais montrer aussi le paradoxe qui existe entre ces nègres considérés comme privés d'âme et le grand raffinement qu'ils ont dans l'art.
Et c'est là où intervient justement Amos Coulanges, votre complice musicien, puisque ce code noir, vous allez le mettre en musique.
C'est ça, parce que je me suis dit, évidemment, lorsque je fais une création, je pense en général à Amos ou à Serge Tamas. Et là, je me suis dit, Amos est vraiment la personne qu'il faut parce que là, il a une culture aussi bien classique que populaire. Et donc, on va pouvoir faire passer ces articles qui sont si raides, si cruels, avec la musique. N'est-ce pas?
Et moi, donc, j'ai tout de suite voulu être Louis XIV dès que Mimi m'a parlé du projet, parce que Louis XIV,
elle
savait
vous a
jouer de la guitare.
Elle vous a donné la perruque pour ça. C'est-à-dire que sur scène, vous êtes. Mais on va en parler. Amos,
oui,
Mimi,
oui.
On va en parler et on va même arriver très rapidement à découvrir véritablement la raison pour laquelle vous avez endossé, vous, ces perruques. C'est qu'il y a évidemment
c'est
des
que,
ancêtres derrière.
C'est que Louis XIV est un artiste quand même. Barbare quand même, mais un artiste, pourquoi pas.
Et pour l'heure, à propos d'artiste, vous l'aimez, Mimi ?
Qui donc ?
Bernard Lavillier.
Ah, évidemment.
Tu ne verras plus ceux qui luttaient ensemble, disparus, les journées se ressemblent. Tous ces hommes sans femmes, des quatre coins du monde, seuls dans les dortoirs, comptent les secondes. Partis si loin pour ne pas réussir, avoir un toit pour dormir. Les poings levés, le grand capital, ça fait sourire un peu mal. Portez-les, vos idées, vos visages, guerroyez. Les moulins, les nuages, n'oubliez rien de vos rêves fous, tenez-les. Portez-les jusqu'au bout. Tu ne viendras plus tourner à la Bastille le soir du grand soir avec ta famille. Coudes serrés pour bousculer le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as perdu ta front. Le temps passé à chanter dans les rues pour les causes perdues. Solidaire et marginal, ça fait sourire un peu mal.
Le temps passe tout doucement en ce début de voyage en Haïti qui va s'accompagner d'un insolite saut dans le temps avec Mimi Barthélémy et Amos Coulanges. Mais tournons-nous pour l'instant vers notre partenaire, la radio publique de l'Outre-mer.
Première. En partenariat avec France Inter.
Bonjour Thierry Belmont.
Bonjour Alexandre.
Les auditeurs vont peut-être vous reconnaître parce que le journaliste de Radio O qui chaque matin sur France Inter leur livre le journal de l'Outre-mer à oui. 5h30 est à nouveau ici à 21h17.
C'est ça.
Bravo.
Oui, je suis là tous les matins à 5h30 sur France Inter pour le journal de l'Outre-mer.
Et à cette heure-ci, vous dormez peut-être habituellement
En général, oui, mais bon, pour Mimi et pour Amos, pourquoi pas.
Alors justement, Mimi vous remercie. Mais question, Thierry Belmont, à l'haïtien guyanais que vous êtes, puisque vos parents haïtiens ont fui la dictature de Duvalier au milieu des années 60. Ils se sont réfugiés en Guyane après avoir trouvé du travail sur la base de Kourou, hein, c'est ça
Vous savez des choses.
Mais moi, j'ai tout dit. Donc, moi, je livre. C'est des informations intéressantes. Ça explique pourquoi vous êtes là. Ils vous ont conçu là-bas, vos parents. Vous avez grandi avec la diaspora.
Oui, à Kourou, en Guyane. Ouais.
D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous vous réveillez, enfin, vous ne dormez pas parce que Mimi et Amos sont dans le studio. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous?
Alors, Mimi Barthélémy, pour moi, c'est une voix. une voix rassurante, chaleureuse, souriante. C'est l'imaginaire aussi, ce sont les contes, je suis désolé, mais voilà, j'ai gardé mon âme d'enfant. Les chants aussi, la poésie, mais c'est surtout une rencontre. Ma rencontre avec Haïti, le pays de mes origines, le pays de mes parents, vous en parliez tout à l'heure. Parce que c'est un peu grâce à vous, hein, Mimi Barthélémy, je m'adresse à vous, que j'ai eu envie d'en savoir plus sur Haïti. Ce pays qui m'était familier et pourtant si lointain. J'ai appris, grâce à vous, que je possédais un trésor culturel. En réalité, je le savais déjà. Mais c'est en vous écoutant à la radio, à la télévision en Guyane, que j'ai pris conscience de la richesse des contes. Et même si vous les inventez, vous les racontez si bien que vous m'apaisez, Mimi. Vous êtes capable de me transporter dans un monde d'enfance qui me concerne. J'aime les histoires pour Timoun, vous l'avez compris, grand enfant, que je suis resté. Et puis, il y a eu une autre rencontre, d'abord dans un couloir de la station RFO en Guyane. À l'époque, ça s'appelait encore RFO. Je vous ai vu, vous n'avez pas saisi mon émotion, Mimi. Ensuite, le journaliste que je suis devenu vous a invité. C'était il y a 2 ou 3 ans, peut-être, dans nos studios radio à Malakoff. Là encore, vous ne l'avez sûrement pas vu, mais j'étais impressionné d'être devant celle qui m'a ouvert à la culture haïtienne.
Il a fallu tout ce temps-là pour que vous lui disiez ceci.
En tout cas, c'est moi qui suis émue, hein, maintenant.
Est-ce que vous vous rendez compte, Mimi, que vos histoires très accessibles permettent à beaucoup de s'approprier hein, cette culture de l'oralité? Mais c'est aussi pour beaucoup l'envie ensuite d'en savoir davantage. C'était mon cas sur Haïti et ses écrivains, sur Haïti et sa peinture, sur Haïti et sa musique, sur Haïti tout simplement, hein, vous donner envie de découvrir le pays. Vous êtes un lien, une passerelle. Vous disiez quoi tout à l'heure, Alexandre?
Une passeuse.
C'est ça, également.
Passeuse, ensorceleuse.
Vers d'autres ailleurs, découvertes. Alors, ma dernière découverte, grâce à vous, Mimi, c'est Amos Coulanges.
Ah.
Alors, si je vous connaissais de nom, Monsieur Coulanges, je m'étais très peu arrêté sur votre œuvre. C'est avec plaisir que j'apprends à découvrir le guitariste, le musicien de talent que vous êtes. Alors, je suis allé sur Internet, vous écouter, et j'ai lu les commentaires des internautes. Il paraît que vous êtes un génial prof de musique, un peu barré.
Oui, à Fénelon, le deuxième lycée Fénelon du 8e arrondissement, ces étudiants ont d'ailleurs la chance de l'avoir. Un peu barré, Amos ?
Oh, ça fait 20 ans que j'enseigne la musique à des enfants.
Oui, mais enfin, généralement, c'est les enfants qui sont disciples. Ah, vous n'êtes pas barré.
Je me planque pour pouvoir composer pendant les vacances.
Oui, mais enfin, non, vous n'êtes pas barré, d'accord, mais pour, vous savez, écoutez, mais quand on dit barré, Thierry,
oui, il a une façon dit que
vous auriez un petit grain, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Non, pas tout à fait.
C'est son charme.
Non, c'est que je mange un pigeon tous les jours. Non, c'est pour ça que je suis très, très dynamique avec les jeunes. Oui. Et puis, parce qu'ils me donnent un peu de vitamines par leur compétences. Et leur cerveau, c'est comme de l'éponge. Donc, tout ce que je leur montre rentre facilement et puis ça sort plus.
Bon,
donc,
alors après, c'est panagérique, parce qu'en plus de ça, Thierry, vous en rajoutez par rapport à la façon dont j'ai pu commencer, évidemment,
merci
cet accueil.
Thierry,
je pense que là, les auditeurs auront compris qu'on les aime. Et tout simplement, je ne sais pas, c'était Dédé Saint-Prix. Dédé qui nous disait la dernière fois, quand on l'a reçu vendredi dernier, que c'était le plus important d'aimer les gens. Tout. Les gens. Dites-moi, Thierry, moi j'aime particulièrement Haïti. Donc j'ai ce qu'on appelle une Haïti aiguë. Aujourd'hui, devoir convier dans cette émission qui généralement arpente les territoires ultramarins, mais stricto sensu, c'est-à-dire nationaux, voir convier Haïti, vous, l'haïtiano-guyanais, vous vous dites quoi? Vous en pensez quoi?
La question, ce serait est-ce que je suis guyanais ou haïtien?
Oh, je sais pas.
je suis un peu les deux. Je suis né en Guyane, j'ai grandi en Guyane, j'ai fait ma scolarité en Guyane. Une partie, en tout cas, je me sens pleinement guyanais. Mais je suis aussi résolument haïtien. Alors, il y a une espèce de paradoxe bizarre, difficile de se retrouver dans tout ça. Il faut dire qu'à la maison, j'entendais le créole haïtien. Je mangeais souvent la cuisine haïtienne, tout en étant immergé dans une culture, une ambiance guyanaise. Alors, je me suis longtemps demandé quelle était ma nationalité avant de comprendre que j'étais riche d'une double culture, voire d'une triple culture guyanaise, haïtienne, française. Et puis finalement, je m'arrange très bien et je me dis que je suis caribéen.
Voilà. Il y a peut-être un jour où le nouveau gouvernement haïtien vous donnera un passeport haïtien, parce que pour l'instant la binationalité
n'existe. La double nationalité, oui, on en parle.
Mais ça serait le sujet d'une autre émission. Maintenant, peut-être il y a aussi une façon pour nous, je l'ai un peu évoqué en début d'émission, de rendre une sorte d'hommage à la nation dont la révolution a inspiré et accompagné premiers tous les mouvements d'émancipation des peuples noirs, non ?
Oui, Haïti, la première république noire. On en parle beaucoup hein, aux Antilles où la question de l'esclavage reste importante, reste sensible. On le voit encore avec la polémique en ce moment autour du film Casse-Départ. Hein. Beaucoup se demandent est-ce qu'il faut rire de l'esclavage ? Est-ce qu'on peut rire de l'esclavage ? Alors la réponse c'est une parenthèse des deux réalisateurs, des deux humoristes, c'était de dire que voilà, c'était pas un film sur l'esclavage, mais un film sur l'identité. Alors Haïti, son rayonnement, il continue à être là dans le monde entier, dans le monde créolophone, mais également ailleurs. On peut citer quoi, la peinture haïtienne qui n'est plus à présenter, ouais. Le naïf qui est partout, pas seulement dans les rues de Port-au-Prince, mais aussi dans celles de Cayenne, de Pointe-à-Pitre, de New York. Il n'y a pas que le naïf d'ailleurs, puisque la peinture est riche et diverse. De grands artistes haïtiens sont mondialement connus. Le plus célèbre d'entre eux, c'est sans doute Jean-Michel Basquiat ou encore Hervé Télémaque. La littérature haïtienne, il ne se passe pas un concours littéraire sans qu'un auteur haïtien ne soit primé partout dans le monde.
Évoquons ici Franck Etienne, qui est lui-même peintre et qu'on a vu récemment à Paris pour l'inauguration, enfin pour la projection de son film que Najman a fait sur lui. Oui. Et puis tous ces autres
écrivains. Ou Daniela Ferrière.
Oui.
Et puis il y a les autres auteurs haïtiens évidemment de renommée internationale. Alors dans la littérature haïtienne, il y a le conte traditionnel. Moi j'y suis attaché, hein, Mimi Barthélémy, voilà, vous y êtes pour quelque chose qui tient une place à part, notamment dans les récits d'origine africaine que les esclaves ont rapporté avec eux, et comme les contes de Bouki et Malice. Voilà, moi j'ai découvert un peu Haïti comme ça avec ces contes, et puis grâce à vous Mimi.
Et aujourd'hui Thierry Belmont, on va vous faire découvrir Le Code Noir grâce à sa musique ou à sa mise en musique par Amos Coulanges et Mimi Barthélémy. Alors on vous remercie Thierry, tous les auditeurs, je le rappelle, ont rendez-vous avec vous, ils ne vont pas dormir beaucoup pour votre journal de l'Outre-mer demain.
5h30
sur cette même chaîne. France Inter, bonne nuit et je me retourne vers nos invités. Nous y voici. Le temps vient, vous voyez, on l'a entendu, on vient de faire ce saut-là. On l'a symbolisé comme ça, Mimi Barthélémy, parce que, évidemment, votre spectacle, c'est en quelque sorte un voyage dans le temps que vous nous proposez. Mais ce voyage, il a fallu que vous le fassiez vous-même, avec la découverte d'une lettre. Ça commence un peu comme le film Casse-Départ qu'évoquait tout à l'heure Thierry Belmont, qui en est à son millionième, je crois, au niveau de la fréquentation spectateur. Ça commence avec cette lettre. Mais
ça commence avec une lettre, oui. Il s'agit du colon Béraud, qui en 1793, en janvier 1793, deux ans après l'insurrection des nègres du sud d'Haïti, dont mon ancêtre est initiateur, eh bien, le colon, deux ans après, écrit à Bordeaux en disant « Mais je ne comprends pas ce qui arrive à mon nègre Armand, qui a toujours été vraiment le meilleur des esclaves et à qui j'avais promis ». La
Alors,
liberté.
Mimi, un mot sur justement ce patronyme, parce que Mimi Barthélémy, là on le comprend à l'instant, c'est en quelque sorte un nom de scène, c'est surtout le nom de votre premier mari, Gérard Barthélémy, qui était l'un des plus fins connaisseurs d'Haïti, hélas disparu, mais votre vrai nom...
C'est
vous
Michel
le dis...
Armand.
Michel
je suis,
Armand.
Je suis une Armand. Et donc, je descends en sixième génération de cet esclave qui s'appelle Armand et que l'on appelait après son insurrection, après sa rébellion, Armand des Platons, parce qu'il a été se réfugier au Platon.
D'accord, et donc cette lettre que vous recevez, c'est celle de son propriétaire, en quelque
c'est
sorte.
C'est le colon qui est propriétaire, parce qu'à un moment donné, Armand, à qui on a donné ce nom, parce que je ne peux pas vous dire si Armand est né en Afrique ou bien s'il est créole.
Parce que comment ça se passait, l'attribution des noms, quand arrivaient justement les esclaves ?
Quand on arrivait, oui. On donnait un nom chrétien.
Oui.
Et donc, il se peut qu'il s'appelait Kossi ou Dometo, et un nom fond, n'est-ce pas ? Puisqu'on imagine qu'il vient du Dahomey. Mais en fait, On n'a pas de précision. Ce qui est clair, c'est qu'avec cette lettre, Béraud dit que ça fait 24 ans que ce nègre est avec lui et qu'il a été parfait.
Irréprochable.
Il l'a même promu commandeur. Et la position du commandeur, c'était quelque chose d'extrêmement important, puisque
au sein de l'habitation, c'était
ah, oui. Au sein de l'habitation, c'est le relais du maître. Et c'est lui qui a le fouet, il a le chapeau, il a le cheval.
Donc en quelque sorte, Armand, votre ancêtre, est contaminé par les idées révolutionnaires qui circulent après 1789, bien sûr, là-bas, et surtout en Haïti.
Exact. Et en 91,
qui était sa domaine à l'époque,
Trois exigences. La première, il demande 3 jours de liberté pour cultiver les lopins de terre.
Eh ben voyons.
Il demande la suspension du fouet.
Mais quoi encore ?
Et il demande qu'on libère les 300 prisonniers, les 3 esclaves prisonniers.
Il manquerait plus.
Eh bien
ça,
ça va faire... Parce qu'il y a une rumeur qui court que le roi a proposé de le faire. Or, on est déjà en 91.
C'est horrible ce que vous venez de me faire, parce que je me suis mis là, à l'instant, dans la tête de, justement, Béraud, qui refuse tout ça en bloc. Et vous, Mimi Barthélémy, vous vous êtes mis, évidemment, pour faire ce spectacle dans celle de votre ancêtre. Comment il vous a, comme on dit, dans le vaudou...
Chevauché.
Comment son esprit est arrivé.
Mais c'est-à-dire que ça a été un long chevauchement, parce que depuis qu'on est tout petit, on entend parler d'Armand de Platon. Et on est élevé dans le respect de cet ancêtre esclave qui a pris la tête de cette insurrection dans la plaine du Fond, dans le sud de Saint-Domingue, en janvier 91, alors que le Bois Caïman sera en août 91, n'est-ce pas ?
La fameuse
Et avec
révolte
les mêmes revendications.
Évidemment.
Et cette lettre est une lettre extrêmement importante. On a eu du mal, j'ai eu du mal à la lire, puisqu'elle est écrite dans une
Alors, vous m'avez donné une photocopie, évidemment, vous l'avez décryptée. Je me mets dans votre tête, Mimi Barthélémy, cette fois-ci, vous voyez, on s'amuse à des drôles de jeux dans cette émission. Et puis, vous voyez cette lettre, vous voyez son importance et vous voyez tout de suite ce qu'il va être question, grâce à ce commencement, d'essayer de faire avec Amos. Ah, vous lui dites quoi, Amos Coulanges ?
C'est-à-dire, je me dis surtout, avant de dire à Amos,
oui,
voilà un rapport entre le code noir et mon ancêtre. Je vais montrer comment mon ancêtre est soumis à tous les articles du code, en tant que commandeur et en tant qu'esclave. Et donc, c'était l'opportunité pour moi, d'autant plus qu'il me tient à cœur, à ce moment de ma vie, là, de retourner dans les racines et découvrir un peu qui sont toutes ces personnes qui m'ont fait.
Il paraît même qu'en ce moment couve votre premier roman, hein, mais c'est,
oui,
c'est pas couve. Le lieu d'en parler.
Il couve.
Il couve.
Côte.
Mais moi je regarde Amos Coulanges qui est juste derrière vous avec sa guitare, parce que évidemment on parle du code noir mis en musique qui est votre spectacle. Maintenant il va falloir commencer à l'écouter, et on a évidemment le premier tableau en quelque sorte qui collerait à cette découverte de cette lettre où la révolte de 91 est décrite, et vous avez choisi, je crois, Amos, de l'accompagner, c'est dans votre spectacle, avec un chant. Mimi est en train de se lever pour aller studieusement à son pupitre. Vous-même, la guitare est en train de se poser sur votre cuisse
gauche. Alors,
il faut
savoir, dans cette révolte, il n'y avait pas que des garçons, que des esclaves bien musclés, il y avait aussi des femmes. Et cette chanson qu'on a en extrait de la tradition haïtienne, on parle précisément d'une femme haïsan qui va aller guéroiser. Comme vous avez parlé du Bois Caïman, le Bois Caïman est une femme qui a tournoyé autour de Boukman et qui a distribué du sang d'un cochon bien chaud à tout le monde pour dire vivre libre ou mourir. Et on va parler de cette espèce de chose, mais en musique.
Et on la dédicace à Marie-Louise Mésadieu, qui est une vraie combattante de la communauté haïtienne ici et qui est venue vous écouter.
Aïzan pongwe pale gewaze. Aïzan pongwe pale gewaze. Sophie Bade Pungwe, on siewe. Sophie Bade Pungwe, on siewe. Ma père le ungam, côté ungam reye. Ma père le ungam, côté ungam reye. Aïzan Pungwe, palé gewasé. Aïzan Pungwe, palé gewasé.
Ma fait salut ho. Ma fait salut ho. Nouvan ho gouba da griye.
Fè salio, ma pe fè salio, ma fè salio, douvan ogoun badagruye.
Ma fè salio, ma fè salio, douvan ogoun badagruye.
Map fè salio, map fè salio, map fè salio, douvan ogoun badagruye. Aïzan Pungwe, palé gewasé. Aïzan Pungwe, palé gewasé. Sophie Bade Pungwe, on siewe. Sophie Bade Pungwe, on siewe. Ma pere le ungam, kote ungam reye. Ma pere le ungam, kote ungam reye. Aïzan Pungwe, palé gewasé. Aïzan Pungwe, palé gewasé.
Aïzan, nous pas besoin vaisseau, s'en a pe coulé. Oh, oh ya ya, s'en a pe coulé. Aïzan, nous pas besoin vaisseau, s'en a pe coulé.
Le deuxième tableau qui viendra à 21h36 sur France Inter, où on continue presque à filer ce spectacle, le Code Noir mis en musique par vous, Amos Coulanges, et vous, Mimi Barthélémy, sera autour de quelque chose qui, effectivement, a été rappelé tout à l'heure, en quelque sorte, par Thierry Belmont, lorsqu'il parlait de la polémique autour du film Case Départ. Est-ce que l'on peut, est-ce qu'il faut rire de l'esclavage ? Dans votre spectacle, dès le début, c'était une intention. Il fallait que l'humour soit présent.
C'est d'ailleurs Amos, il faut le reconnaître, c'est Amos qui a dit dès le départ, le sujet est tellement dur qu'il nous faut absolument prendre la distance. C'était déjà, on prenait cette distance avec la musique. Mais il faut donner de l'humour à cette histoire parce que c'est trop lourd. Et c'est pourquoi Amos a tout de suite réclamé d'avoir une perruque. La perruque de Louis XIV.
C'est dommage qu'il ne soit pas venu là, parce qu'il est derrière vous avec sa guitare. Vous venez de quitter le chevalet, vous étiez assis devant lui. Vous avez d'habitude la perruque de Colbert et lui de Louis XIV, exact. C'est ça. Oui, ben c'est dommage, là je ne l'ai pas, mais bon.
Non, mais il y a la perruque, c'est le côté visuel, mais Louis XIV est musicien, est danseur aussi. Donc il savait jouer des sarabandes, il savait jouer des menuets, des bouquets.
Mais sur cette question-là, Amos, de l'humour.
Eh bien, je trouve que c'est assez humoristique. Quelqu'un qui sait jouer des fugues, qui sait jouer des morceaux assez sophistiqués et qui demande à son ministre de faire des lois pour gérer la vie de ces businessmen qui vont aller voler des terres et faire réduire un peuple en esclavage.
Alors donc, justement,
c'est ça le problème.
Justement, toujours en direct de ce studio 81 ici à France Inter, montrez-nous par un exemple assez simple, et je crois qu'il va s'agir d'un récitatif, en fait, ce tableau-là des esclaves à vendre, parce que c'était quelque chose malheureusement de traditionnel. Mimi, d'ailleurs, un mot d'ailleurs sur ces tableaux, ce qu'on pouvait voir et ce qu'on pouvait lire avant de nous réciter quoi que ce soit.
En vérité, je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas la question, Alexandre. Redictez-moi-la.
J'essayais juste, avant que l'on commence le récitatif, donc oui. Ce deuxième tableau en direct de ce studio, de vous demander ce qu'il en était de cette scène traditionnelle de vente d'esclaves là-bas dans les cotons de la colonie.
Eh bien, c'est-à-dire, l'esclave descendant du bateau était passé au jet. Il était passé au jet, il était exposé sur un comptoir de vente, et là, les acheteurs venaient, le tâtaient, lui regardaient les dents, et tel un meuble.
À la criée publique. Et puis un ténor qui chante comme un récitatif. On dit parlando, comme ça, sans chanter.
Une guldive située à Léogane, avec 4 cabouets, 12 mulets, 30 nègres et autres ustensiles nécessaires à la guldive. À vendre une négresse de belle corpulence, bonne blanchisseuse, ayant un petit mulâtre à la mamelle, on la donnera à l'essai. À vendre un lot de meubles, des chaises et lits, 3 nègres domestiques et autres objets. À échanger une négresse nourrice pour un nègre valet.
Récitatif au secco.
Bravo. 21h40, on continue, on ouvre le troisième tableau. On l'ouvre avec l'article 38 du Code noir de 1685 et qui, vous connaissez votre code par cœur, Mimi Barthélémy, nous indique quels vont être les traitements infligés aux esclaves récalcitrants, fuyards. Expliquez-nous.
Oh, mais alors, l'article 38 stipule que l'esclave fugitif, pendant plus d'un mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. Et s'il récidive, il aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la troisième fois, il sera puni de mort. Et dans le spectacle, il y a le colon Permel qui s'exclame.
En plus de tout cela, vous le savez bien, mon ami, la réglementation des châtiments est hors de prix. Lui faire couper le jarret vaut 15 livres. 5 livres pour faire flétrir une oreille et la couper. La pendaison, 30 livres. Brûler vif, 60 livres. Où allons-nous avec tout ce prix-là? C'est l'inflation. On va rien payer.
C'est encore l'humour, n'est-ce pas? C'est là, l'humour revient.
C'est-à-dire
encore.
C'est-à-dire que c'est tellement ardu, c'est tellement rebutant, c'est tellement ignoble que l'humour est là comme une arme.
Exact. C'est exactement ça.
En tout cas, nous sommes déjà le fou de cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On ne va pas aller tuer tout le monde.
On va
ils
pas
sont même
pleurer.
Plus là. Ils sont même plus là. Louis XIV, il n'est même pas là. Il a Versailles qu'il a construit avec l'argent des colonies et d'Haïti. Mais on ne va pas dire, donnez-nous un petit bout de Versailles. Donc on n'a qu'à rire.
Une anecdote que vous racontez aussi dans le spectacle, peut-être, Mimi, livrez-la nous ici. C'est celle du général Rochambeau, que on sait que c'est le successeur de Leclerc,
qui est
mort de la fièvre jaune, mm-hmm. qui est venu mater la révolte. Le gendre de Bonaparte a été envoyé là-bas avec Pauline, c'est ça?
Le beau-frère.
Mm-hmm. Voilà. Et puis, il meurt de la fièvre jaune, mais c'est Rochambeau qui va justement mener
Alors il y a
combats.
Une lettre. il y a une lettre du général Donatien Rochambeau, entre parenthèses, dont la sculpture trône à Vendôme.
Vendôme.
À Vendôme.
Orléans.
Régulièrement. Beaugency. Lettre du général Donatien Rochambeau à son adjudant, le 16 avril 1803.
Oh, je vais vous le lire. Je vais la lire, pardon. Je ne l'ai pas tout de suite.
Mon cher commandant. Je vous envoie un détachement de 150 hommes de la garde nationale du Cap qui seront suivis par 28 bulldogs.
Ces renforts devraient vous permettre de compléter avec succès vos opérations. Je devrais mentionner que vous ne recevrez ni rations ni argent pour les chiens. Vous devez leur donner des nègres à manger.
Mes salutations harmonieuses, général Donatien Rochambeau.
Donc c'est grâce à ces chiens qu'on appelait les buscadores, ces chiens bulldogs qui sont entraînés à dévorer des nègres et qui sont importés d'un élevage espagnol à Cuba, que Rochambeau va mener le combat, mais qui sera néanmoins vaincu à Vertières, hein, c'est ça, en novembre 1803, et qu'Haïti proclamera son indépendance le 1er janvier de l'année suivante, en 1804.
C'est que dans notre spectacle, quand on arrive à tout ça, après tous les codes noirs, il y a le code noir français, il y a d'autres codes noirs, mais c'est que les Français qui ont inventé cette espèce pour nous d'esclavage ont inventé aussi les droits de l'homme. Donc on l'a dit, on l'a bien dit, et si on arrive à être indépendant, avant d'être indépendant, il y a eu un grand général, Toussaint Louverture, qui écrivait à Napoléon Bonaparte comme le premier des noirs au premier des blancs. Et bien Napoléon l'a assassiné bêtement en le faisant déporter.
Au fort de Joux, dans le Jura.
Il y a des traces musicales sur tout ça, et enfin, il a fait un grand discours de toute façon, en disant, en me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des noirs. Il repoussera par ses racines, car ses racines sont profondes et nombreuses. Donc c'est facile de dire de Toussaint Louverture à Obama, pour nous c'est tout simple. Comme haïtien, on dit c'est la même chose, c'est la même guerre.
Alors à Moscoulange, depuis ce studio,
eh bien,
en
on
direct...
va faire partir Toussaint au fort de Joux en prison, assassiné par Bonaparte.
À ce stade-ci du spectacle qui défile devant vous, 21h47, je dis devant parce que je suis sûr que pour les auditeurs des images, ils ont en ce moment en tête. Notre collègue de Tropic FM, votre compatriote Anne-Louise Mesadieu qui a failli tout à l'heure, au moment où je lançais cette chanson guerrière interprétée par Amos Coulanges, m'assassinait puisque j'ai prononcé son prénom à l'envers et que je l'ai appelée Marie-Louise. Quelle horreur. Tenez, Mimi, à vous dire un mot.
Quelle horreur, n'est-ce pas, Marie-Louise au lieu de Anne-Louise.
Oui.
En tout cas, moi, je tenais à dire merci à Mimi et à Amos de m'avoir fait redécouvrir le code noir. Parce qu'il est important de savoir d'où l'on vient, qui l'on est et où l'on va en tant que franco-haïtienne et fière de l'être. Parce que nous avons une histoire très, 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 très enrichissante et nous n'avons pas forcément le temps de la découvrir et de la connaître. Et en tout cas, je tenais à vous dire merci. Vous êtes mes modèles, vous le savez déjà. Et je dirais même au nom de la communauté haïtienne, un grand merci à vous. Parce que le spectacle, c'est vrai qu'on parle de l'ironie depuis tout à l'heure. Alexandre, on parle avec Mimi, on parle d'ironie. Mais le spectacle est poignant parce que les mots, les verbes ont leur importance. Et je pense que c'est qu'avec l'ironie qu'on arrive à accepter cette douleur. C'est-à-dire, le nègre, le noir est un meuble. Et nous sommes en 2011,
oui.
Et les choses n'ont hélas pas beaucoup avancé, même si dans les textes, les choses feignent d'avancer, je dirais encore. Merci, je suis toute émue quand j'entends ces chants, je suis toute bouleversée. Merci Alexandre de m'avoir ouvert l'antenne.
Non, je n'étais pas plus, et d'ailleurs on a tellement rajouté de micros qui se sont ouverts dans ce studio. Il y a celui d'Amos à la guitare, il y a celui de Mimi sans son plubitre, il y a maintenant un casque qui siffle parce que vous l'avez pas remis au bon endroit. Je vous remercie, c'est une façon de me punir ça, Anne-Louise. On continue aussi sur l'humour. Oui. Et si on mangeait un peu de curé ensemble, Mimi Barthélémy.
Ah, quelle bonne idée.
Enfin, en tout cas, en faisant toujours référence à ce qui s'est passé à cette époque, parce que l'Église catholique n'était pas à côté de
l'Église catholique
affaire.
Était au moment même de l'arrivée des colons, la croix est là. Et donc, le code noir stipule très vite dans l'article 2 le rôle essentiel de l'Église catholique et la nécessité urgente de baptiser tous les esclaves, de les instruire dans la religion catholique apostolique et romaine, et puis aussi de préciser que les commandeurs, qui sont donc les porte-parole du colon, soient aussi baptisés et vivent. Ils doivent être aussi mariés et ils ont un régime extrêmement sévère, comme celui d'un esclave en fait. Le commandeur est comme un esclave. Mais alors, ce qui est magnifique, c'est la façon de transformer que l'esclave a de transformer les chants grégoriens et de faire de ces chants quelque chose qui exprime leur souffrance. Et pourquoi on aimerait bien chanter quelque chose qui illustre un peu cela, si vous voulez bien.
On vous écoute. 21h50. France Inter. L'heure ultramarine.
Avea Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
Ave, Ave, Ave Maria.
Ave, Ave, Ave Maria.
J'irai la voir un jour, Marie, dans sa demeure. J'irai la voir un jour, Marie, ma douce Marie. Au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, j'irai la voir un jour.
Grâce Marie, grâce, oh, grâce Marie, grâce, grâce Marie, grâce, oh Jésus, pardonnez-nous.
Oh, grâce Marie, grâce,
oh, oh grâce, grâce Marie, Marie, grâce, oh grâce Marie, grâce, oh Jésus, pardonnez-nous.
Je sens qu'il fallait au moins cet Ave Maria-là pour convoquer Armand, votre ancêtre, celui qui vous a chevauché, on l'a dit tout à l'heure, et qui vous a inspiré, puisqu'il a bien fallu inventer, en quelque sorte, quelques affaires le concernant. Son pédigré n'était pas tout à fait clair, ça je ne sais pas, vous allez me dire. La lettre d'Armand, la voici, écrite par vous, Mimi.
Je suis Armand, commandeur des esclaves de l'habitation Béraud. Je sers mon maître depuis plus de 20 ans. On me nomme Armand Béraud. J'appartiens à mon maître, car je suis né sur son habitation de la plaine du Fond, dans la région sud de Saint-Domingue, où ma mère était elle-même esclave. Je suis créole de naissance. À 10 ans, on m'a mise au champ. Puis comme j'étais de caractère fort et de belle corpulence, mon maître a fait de moi un de ses commandeurs.
Alors, reste le dernier temps, puisqu'on va dramatiser un peu. Le temps, eh bien, se distend dans ce studio, certes, mais il coule, il coule, il coule. Et puis, il faut faire cette boucle, alors. Allez, peut-être, avec ce cinquième tableau, et vous avez guère que 2 minutes pour cela, avec Amos Coulanges, Mimi Barthélémy, jusqu'à une figure qui vous est très familière, puisqu'il s'agit du président Obama.
En vérité, ça me plaît énormément de pouvoir parler de lui, parce que c'est quand même la réalisation de toute une démarche qui commence en 1791 et qui aboutit aux États-Unis et dans le monde avec l'arrivée de Obama au pouvoir.
Bon, jusqu'en 94, moi j'étais en train de manifester pour qu'on libère Mandela.
En 1994.
Qui était simplement emprisonné parce qu'il était bien sûr à l'arrêt, mais parce qu'il était dans l'apartheid. Donc, c'est pas si loin que ça. Hein. Tout ça peut revenir. On ne sait jamais. Soyons vigilants.
Donc, il y a tout de même un petit tribut aussi à rendre à tous les abolitionnistes.
Ah, et comment? Et puis,
tous ceux qui ont aidé.
On le dit à Condorcet,
à Jean-Jacques Rousseau.
À Jean-Jacques Rousseau.
À Diderot.
À Wilberforce.
Au Chevalier de Saint-Georges.
Au Chevalier de Saint-Georges, évidemment.
À Ibobo, à l'abbé Rénal, au père l'abbé Grégoire.
Oui.
À Rémétier.
Et alors, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et puis rappelons-le, en 1794, la Convention nationale déclare abolir l'esclavage des nègres dans toutes les colonies. Tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution.
Voilà pour la première abolition. Il aura fallu après, malheureusement, ce rétablissement
Napoléon,
par Bonaparte, attendre 1848. On va parfaire l'histoire.
Oui.
Mimi Barthélémy, Amos Coulanges, merci de nous avoir autant donné ce soir. J'ai juste envie d'un tout petit plus, Amos Coulanges, que vous remplaciez la traditionnelle musique du générique, comme vous l'avez fait au début, par un joli doigté. On vous écoute. On ne va pas vous demander de rappel. On va juste souhaiter longue vie à ce spectacle Code Noir en musique qui va continuer à se balader un peu partout à la rentrée dans le 18e arrondissement. Mimi.
Oui, La voix moderne, nous allons jouer le 14, 15, 16, 17 septembre. Mais moi, je voudrais dire que moi, Michèle Armand, dite Mimi Barthélémy, descendante de l'esclave Armand.
Moi, Abos Coulange, descendant du colon Coulange.
Nous sommes les fruits de cette histoire.
On vous donne rendez-vous demain en Guyane, en face d'Haïti, sur le continent. Et puis nous serons en compagnie du célèbre couple d'ethnologues américains Richard et Sally Price pour parler d'un sujet qui a tout à voir avec celui d'aujourd'hui, les Marrons et leur communauté qui peuple la Guyane encore aujourd'hui. Vous pouvez trouver tous les repères sur notre site internet franceinter.fr, un site qui vous permet de réécouter ou de télécharger cette émission. On vous fera même des surprises avec des petits bonus vidéo. Et puis merci à Thierry Belmont de Radio O, la radio publique de l'Outre-mer à Paris. Pour l'heure, toute l'équipe de l'heure ultramarine vous salue. Attachée d'émission Hélène Calma, assistée de Marie Kerdraon, stagiaire Astrid Campion, une réalisation de Bertrand Chometon, notre champion derrière la console de diffusion, c'était Romain Luquiens et Élise Christophe. Bravo pour la prise de son en direct. Et après le flash de 22h, vous retrouverez Summertime de Joe Farmer.